France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les Américains ont commencé à voter aujourd'hui aux élections de mi-mandat. Un scrutin transformé en consultation nationale sur le style et la personne de Donald Trump, le chef de la Maison-Blanche qui aura exploité jusqu'au bout les divisions partisanes pour mobiliser sa base électorale avec l'espoir de conserver une majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès.
Un procès hors normes et sous très haute sécurité s'est ouvert hier à New York.
Et celui du narcotrafiquant mexicain Al Chapo, connu pour avoir dirigé l'un des cartels les plus puissants de la planète.
Aujourd'hui, en Allemagne débute également un procès pour l'histoire.
Celui d'un ancien garde d'un camp de concentration nazi, aujourd'hui âgé de 94 ans, accusé d'avoir participé indirectement au meurtre de plusieurs centaines de personnes.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la Chine est appelée à s'expliquer aujourd'hui sur son programme d'internement de citoyens musulmans.
Oui, 1 million de Ouïghours seraient ou auraient été détenus dans ces camps de rééducation politique.
En France, le chef de l'État se rend aujourd'hui dans 3 lieux symboliques du carnage de la Grande Guerre, dont Verdun.
L'occasion notamment de promouvoir une Europe forte et pacifique contre l'absurdité des nationalismes. Le chef de l'État qui a également annoncé ce matin plusieurs mesures destinées à répondre à la grogne qui monte contre la hausse du prix des carburants. Nous serons en ligne avec Jean-Louis Delaunay, secrétaire fédéral transport CGT. Enfin, à Marseille, le corps d'un homme a été retrouvé ce matin par les secours dans les décombres des immeubles vétustes effondrés la veille et où 5 à 8 personnes au total pourraient être ensevelies. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Médaille d'or du CNRS 2018, tout fraîchement élu à l'Académie française, l'essayiste, philosophe, philologue Barbara Cassin est notre invitée aujourd'hui, à retrouver à partir de 12h55, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Qu'en dire, c'est vraiment faire ?». On va donc interroger la dimension performative du langage et ses usages politiques aujourd'hui, ensemble.
Merci.
Dans la dernière partie.
Merci, à tout à l'heure. Même si la tendance lors des élections de mi-mandat est rarement favorable à l'administration en place, la fracture entre deux visions d'un destin commun semble-t-elle aujourd'hui aux États-Unis qu'il semble difficile en ce jour de scrutin de pronostiquer un quelconque résultat. Certes, les démocrates sont donnés favoris par les sondages pour emporter la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient a priori conserver le contrôle du Sénat. Il n'en demeure pas moins que l'incertitude est bien réelle. Ce qui semble davantage établi en revanche, c'est que si le nom de Donald Trump ne figurera sur aucun des bulletins de vote aujourd'hui, il sera dans tous les esprits, que ce soit chez ses partisans enthousiastes, comme chez ses farouches détracteurs. Or, dans ce qui se dessine comme un référendum pro ou anti-Trump, le président lui-même aura placé tous ses thèmes de prédilection au cœur de la campagne, la sécurité, l'immigration, mais aussi l'économie. Il faut dire qu'avec un rythme de 4%, l'économie américaine, inhabituellement florissante, constitue un argument de poids pour Donald Trump, d'autant plus que ses partisans prétendent que le mérite en revient en premier lieu au président. Alors c'est le cas notamment à Détroit, où notre correspondant Grégory Phillips a pu rencontrer des ouvriers du secteur automobile, les fameux cols bleus, convaincus que les bonnes performances de l'économie de leur pays sont dues aux efforts de l'administration actuelle.
Sur le parking de cette usine, des pick-up à perte de vue. Ici à Sterling, dans la banlieue de Détroit, la marque Ram, anciennement Chrysler, fabrique ces véhicules utilitaires dont raffole la middle class américaine. Il est 14h, c'est la fin de la journée de travail pour ceux qui ont commencé tôt, et le sentiment général chez les ouvriers de cette usine, c'est qu'en ce moment, il y a du boulot.
J'ai l'impression que l'industrie automobile est en plein boom. On est de retour, on fait de l'argent, c'est bien.
On vend tellement de voitures qu'en ce moment, on ne les fabrique pas assez vite.
Est-ce que vous faites confiance à Trump pour que les choses aillent mieux dans ce pays ?
Absolument. C'est un homme d'affaires, c'est pas un politicien. On ne peut pas se moquer de lui. Ici, on embauche. Il n'y a que les gauchistes qui ne l'aiment pas. Je ne sais pas bien pourquoi d'ailleurs.
Beaucoup d'ouvriers disent qu'ils ne sont pas certains d'aller voter ce mardi. Mais ceux qui le feront, pour la plupart, désigneront un candidat local républicain pour dire leur soutien au président.
Honnêtement, je pense qu'il accomplit des trucs formidables. Il bouscule un peu les choses.
Il a l'air authentique. Il faut que Trump garde sa majorité afin de poursuivre son programme.
À la présidentielle de 2016, les cols bleus du Michigan, traditionnellement démocrates, avaient majoritairement voté pour Trump.
Un reportage à Détroit signé Grégory Phillips. Cible des attaques du président Donald Trump, lequel a placé l'immigration au cœur de cette campagne des midterms. Quelques 4000 migrants d'une caravane en route vers les États-Unis ont fait halte hier à Mexico, fuyant la violence et la pauvreté. Ces milliers d'exilés, majoritairement originaires du Honduras, ont quitté leur pays le 13 octobre dernier pour rejoindre le Guatemala avant de franchir illégalement la frontière avec le Mexique. Et c'est ainsi qu'hier, le président du Guatemala s'est rendu au Honduras pour élaborer avec son voisin un plan d'action afin d'éviter que les citoyens de leur pays respectifs continuent à émigrer vers les États-Unis. L'homme a beau avoir été surnommé El Chapo en référence à sa petite taille, il n'en reste pas moins l'un des plus grands criminels du 21e siècle. Et en ce sens, le procès qui s'est ouvert contre lui hier à New York est aussi historique qu'hors norme. Longtemps considéré comme l'ennemi public numéro un après la mort d'Oussama Ben Laden, El Chapo, de son vrai nom Joaquin Guzman, a dirigé 25 ans durant l'un des cartels les plus puissants du monde. 11 chefs d'accusation pèsent aujourd'hui contre lui, parmi lesquels trafic de drogue, possession d'armes à feu et blanchiment d'argent. Le narcotrafiquant mexicain est accusé d'avoir expédié aux États-Unis plus de 154 tonnes de cocaïne pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars. C'est une correspondance signée Loïc Loury.
La première étape du procès El Chapo est particulièrement délicate. 12 jurés et 6 suppléants doivent être sélectionnés parmi une centaine de personnes. Toutes ont répondu à un questionnaire et seront ensuite interrogées par les deux parties. Leur partialité sera évaluée face à cette affaire extrêmement médiatisée. Tout cela doit durer jusqu'à la fin de la semaine et à huis clos, mesure réservée aux criminels dangereux. Les jurés par ailleurs vont rester anonymes pour leur propre sécurité, tout comme l'identité de certains anciens compagnons de route de Guzman amené à témoigner. Il faut dire qu'en 2016, un juge mexicain en charge du dossier avait été assassiné. Joaquin Guzman lui a fait son entrée au tribunal de Brooklyn vêtu d'un costume bleu. Il semblait souriant, détendu, rapportent les 5 journalistes autorisés à suivre la procédure. Sa défense pourtant s'annonce compliquée. Ses avocats ont été noyés sous la paperasse, des centaines de milliers de documents ainsi qu'une pile d'enregistrements. Dossier à la mesure du personnage qui a inondé les États-Unis avec sa drogue durant 25 ans. Mais l'époque où El Chapo s'échappait de prison par un tunnel creusé sous sa cellule semble révolue. Il est à l'isolement 23 heures sur 24 depuis son extradition.
Justice toujours et encore en Allemagne, cette fois-ci avec un procès à la fois symbolique et moral. À partir d'aujourd'hui, comparaît un ancien gardien de camp de concentration pour complicité de centaines de meurtres. Le parquet n'a pas divulgué l'identité de l'accusé. Tout juste sait-on que ce paysagiste à la retraite, prénommé Johan, est âgé de 94 ans et qu'entre juin 1942 et septembre 1944, alors qu'il n'avait pas 20 ans, il gardait en tant que surveillant le camp nazi de Stutthof où des centaines de personnes étaient gazées, fusillées ou mouraient de faim. Et par là, précise l'acte d'accusation, il s'est donc rendu complice de meurtre même s'il n'y a pas participé directement. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
À 18 ans, le jeune SS avait intégré le groupe des gardiens du camp de Stutthof dans lequel sont morts au moins 27 000 détenus pour la plupart des Juifs. Les gardiens savaient ce qui se passait dans le camp, estime le procureur Andreas Brendel. Plus de 17 parties civiles, dont certains vivent aujourd'hui en Israël ou aux États-Unis, seront présents lors des audiences. Pour l'équipe des enquêteurs de Ludwigsburg, chargée de la traque des derniers criminels nazis, c'est une course contre la montre. Les suspects sur lesquels travaille l'équipe ont tous plus de 90 ans. En Allemagne, la jurisprudence sur les crimes nazis a changé depuis le procès d'Emianiuk, du nom d'un ancien gardien du camp de Sobibor, réfugié aux États-Unis et condamné à la prison à vie en 2011. Depuis, la justice allemande considère chaque gardien de camp comme un rouage de la machinerie sans lequel les crimes nazis n'auraient pu avoir lieu. Désormais, plus besoin de prouver leur implication dans la mort d'un détenu en particulier, la preuve de leur travail dans un camp suffit à les faire condamner.
Au Cameroun, le président Paul Biya, 85 ans, dont 36, passé à la tête du pays, a prêté serment ce matin pour un 7e mandat dans un climat de tension illustré hier encore par l'enlèvement de 79 élèves dans la région anglophone du pays. Là-bas, et depuis plusieurs mois, des affrontements entre armées régulières et séparatistes s'y produisent quasiment tous les jours. Les séparatistes y ont notamment décrété un boycott des établissements scolaires, estimant que le système francophone marginalise les étudiants anglophones. quand la Chine réinvente les camps de rééducation de masse. Cette tradition du communisme chinois, de la transformation par l'éducation, longtemps dirigée contre les droitistes, comprenait les mauvais éléments du parti, et semble-t-il à nouveau à l'œuvre. 1 million de personnes seraient ou auraient été incarcérées dans ces camps sans procès ni recours, pour l'essentiel des membres de la minorité musulmane ouïghour. Alors Pékin a d'abord nié l'existence de tels établissements avant de parler de centres éducatifs enseignant le chinois, le sport ou la danse folklorique pour lutter contre l'extrémisme religieux. Toujours est-il que les autorités chinoises, de plus en plus critiquées à travers le monde, devront s'expliquer aujourd'hui à l'ONU sur leur programme d'internement des citoyens musulmans. Simon Le Plâtre nous appelle de Shanghai.
À en croire la propagande chinoise, tout va bien au Xinjiang, cette région autonome du nord-ouest de la Chine où vivent les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes. Depuis quelques semaines, les reportages des médias d'État chinois se multiplient pour décrire le tourisme florissant, la sécurité inébranlable et les camps de rééducation présentés comme des lieux d'apprentissage. Après avoir nié leur existence pendant plus d'un an, la Chine s'est lancée dans une entreprise de justification de ces camps de rééducation présentés comme des mesures préventives pour contrer le terrorisme et l'extrémisme. Si la Chine a changé de stratégie, c'est que les preuves s'accumulent. Plusieurs rapports ont émergé et en août dernier, la question a été posée à la Chine par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Depuis, la propagande tourne à plein. Un reportage de la télévision chinoise montre des détenus heureux qui jouent au ping-pong et au basket, apprennent le mandarin, fabriquent des pains traditionnels, il y a même la climatisation dans les salles de classe. Mais la réalité est moins rose. S'il y a bien des centres de jour dont les étudiants sortent le soir, 1 million de Ouïghours, soit près de 10% de la population ouïghour du Xinjiang, seraient internés dans des camps fermés gardés comme des prisons. Il peut suffire d'avoir été trop souvent à la mosquée ou d'avoir des contacts à l'étranger pour être envoyé en camp. Pour leurs proches, ils disparaissent. Et ceux qui ont réussi à sortir, des citoyens kazakhs notamment, ont des crises qui s'apparentent à du lavage de cerveau. Les détenus doivent réciter des slogans, chanter des chants communistes, dénoncer leur religion, leurs erreurs du passé et pourquoi pas leurs proches. Les conditions sont spartiates. Ceux qui résistent sont isolés, privés de sommeil et battus. Certains détenus, âgés ou faibles, sont morts dans les camps chinois.
À Marseille, alors qu'au moins 8 personnes sont toujours portées disparues. Toute la nuit, les secours ont continué à fouiller dans les gravats des 2 immeubles qui se sont effondrés dans le centre-ville. Et ce matin, sous les décombres, le corps d'un homme décédé a été retrouvé. Dans le même temps, la colère monte contre l'incurie de la politique publique en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ce matin, chez nos confrères de France Info, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, s'en prenait justement à l'inertie, selon lui, des pouvoirs publics. Sur le seul chef-lieu des Bouches-du-Rhône, un rapport datant déjà de 2015 fait état de l'existence de quelque 40 000 logements indignes.
C'est vraiment une tragédie qui fait vraiment mal au cœur. Et on sait qu'il y a là potentiellement un danger majeur, essentiellement pour les plus pauvres qui recourent à ces situations inadaptées, de logements qui n'en sont pas dans des tels états pareils. On peut pas parler de logements. Il faut qu'on prenne la mesure du danger que constitue l'habitat indigne, l'habitat insalubre et de l'insuffisance à ce jour des politiques publiques pour y répondre. C'est des conditions tragiques qui rejoignent presque la question des bidonvilles. On sait que dans les bidonvilles, on a des risques majeurs de personnes qui vont, parce qu'ils utilisent des chauffages d'appoint, risquer un incendie qui peut être mortel. On a 1200 personnes qui vivent en bidonville à Marseille. Il y a un moment où il faut qu'on réagisse face à ça. Et là, on a une connaissance quand même. On a une enquête qui date de 2015 qui montre que 40 000 logements ont potentiellement indignes. Et pendant ce temps-là, on a eu des arrêtés d'insalubrité au nombre de 84 en 2016 et 129 logements rénovés au titre de l'habitat indigne. Il faut impérativement que de ce diagnostic, on mette en place une intervention croisée de l'ensemble de la puissance publique pour pouvoir vraiment enrayer cette spirale de l'habitat indigne dans des villes comme Marseille.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, répondait à Marie Bernardo. La troisième étape de l'itinérance mémorielle entamée dimanche s'annonce particulièrement chargée aujourd'hui pour le chef de l'État. Emmanuel Macron est attendu à Verdun où il mettra ses pas dans ceux de ses prédécesseurs pour honorer les héros de la plus longue et la plus célèbre des batailles de la Grande Guerre. Un peu plus tard, à Reims, le président rendra hommage aux héros de l'armée noire, ces troupes coloniales montées au front et composées principalement de tirailleurs sénégalais. Et puis, ce matin, Emmanuel Macron s'est rendu aux Éparges, théâtre de combat dantesque en 1915, l'occasion d'annoncer l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, l'un de ses écrivains préférés, qui a été blessé et en a fait le récit saisissant dans son recueil Ceux de 14.
C'est au Panthéon que la République honore ses grands hommes. Au moment où nous célébrons ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, au moment où la voix des témoins s'est éteinte pour toujours, Il est incompréhensible que ceux de 14 ne figurent pas dans ce lieu, eux dont la victoire a sauvé la patrie. Aussi, je souhaite que l'an prochain, ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans grade et généraux, mais aussi les femmes engagées aux côtés des combattants, car ceux de 14, ce fut aussi celle de 14. Toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honoré au Panthéon. Je veux redire ici combien la nation est fière d'eux et combien leur exemple aujourd'hui encore doit nous inspirer. La lourde tâche qui aujourd'hui nous incombe est de les rendre fiers de nous.
Alors dans cette journée forte en symboles, et comme la veille déjà en Meurthe-et-Moselle, le chef de l'État ne manquera pas non plus de rencontrer les élus de la Meuse au cours d'un déjeuner républicain, l'occasion d'écouter leurs doléances alors que l'exécutif mène une vaste offensive pour tenter d'améliorer ses relations avec les collectivités territoriales dont les élus mais aussi les habitants s'estiment négligés aujourd'hui par la politique du gouvernement. Enfin, signe là encore que l'agenda présidentiel de cette semaine ressemble bel et bien à une offensive de grande envergure. Pour reprendre l'initiative, le président était également ce matin chez nos confrères d'Europe 1, un entretien enregistré en réalité la veille et durant lequel il s'est employé à répondre au mouvement de protestation qui depuis quelques jours monte s'agissant du pouvoir d'achat et de la hausse récente du prix des carburants. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de détailler les mesures annoncées par le chef de l'État pour les Français les plus modestes, peinant à se chauffer ou bien encore se contraint de prendre chaque jour leur véhicule, cette intervention d'Emmanuel Macron mettant notamment en perspective l'absurdité du nationalisme belliqueux avec la situation actuelle, aura surtout donné à écouter un président en campagne.
Oui, ce qu'on a entendu ce matin à travers cette interview sur Europe 1, c'est un président de la République en campagne en vue des élections européennes du mois de mai l'année prochaine. Emmanuel Macron a réexpliqué, comme la semaine dernière, le parallèle qu'il faisait entre la situation que nous connaissons aujourd'hui en Europe et celle qui prévalait dans les années 30 pendant l'entre-deux-guerres. Il y a selon lui des pays qui se réarment partout dans le monde et surtout une résurgence des nationalismes dans de nombreux pays européens.
Les nationalismes ne sont-ils pas là? A-t-on oublié quel est le parti qui avait gagné les dernières élections européennes en France? Le Front National. Donc il est là, le Front National. Il est monté. Partout en Europe, le nationalisme remonte. Ce nationalisme qui demande quoi? La fermeture des frontières, qui prône le rejet de l'autre. Quand je regarde aujourd'hui, ils jouent sur les peurs partout. Et ils sont là. Et donc, nous avons besoin de ne pas faire bégayer l'histoire. Nous avons besoin d'une Europe plus forte.
Il ne s'agit pas d'agiter les peurs, a encore précisé le chef de l'État, mais d'être conscient de la situation dans laquelle nous sommes. C'est pourtant bien ce qu'il fait Emmanuel Macron face au discours des partis populistes qui agitent la peur de l'immigration, la peur d'une potentielle dépossession culturelle pour les populations dites de souche. Lui brandit les peurs liées à une résurgence des nationalismes et à une possible réapparition de la guerre. On est donc bien là dans un discours de campagne électorale où le chef de l'État vante les mérites d'une Europe qui a permis de garantir la paix pendant 70 ans et où il essaie de se présenter comme un rempart face à des forces réémergentes et susceptibles de détruire cette Europe protectrice. C'est en tout cas une grande partie du sens politique qui sous-tend cette semaine d'itinérance à travers l'Est et le Nord de la France.
Merci Stéphane Robert. Alors ce matin, je le disais, Emmanuel Macron, attentif par ailleurs à la grogne qui monte contre la hausse du prix des carburants, a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles l'extension à l'ensemble de la France de la défiscalisation de l'aide au transport mise en place par la région Hauts-de-France. Le chef de l'État a dit également vouloir regarder comment améliorer le chèque énergie pour les ménages modestes. Et pour évoquer ces premières pistes avancées donc par Emmanuel Macron, invité de ce journal, Jean-Louis Delaunay, secrétaire fédéral transport CGT. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Monsieur Delaunay, comment avez-vous reçu ce matin ces quelques annonces du chef de l'État vues du côté des salariés?
Bien, comme d'habitude, je me dis que c'est un effet d'annonce. Hein. Bien sûr, il a entendu la grogne des citoyens, même s'ils annoncent des blocages le 17 un petit peu partout en France. Je pense qu'il avait l'obligation de réagir, donc il a réagi en essayant d'annoncer quelques mesures pour certains salariés, hein, puisque quand on annonce au niveau des carburants, pour ceux qui font plus de 30 km par jour pour se rendre à leur travail, peut-être des aides au niveau faites par les entreprises et tout ça, je me dis que c'est des petites mesures, et en plus c'est pas le gouvernement qui va y mettre la main à la poche, ça va être obligatoirement les entreprises.
Une question d'Annabelle Grelier.
Alors justement, du côté des entreprises, aujourd'hui les transporteurs n'appellent pas au mouvement du 17 novembre. Ne sont-ils pas touchés par la hausse du prix des carburants?
Ils sont touchés comme tout le monde. La seule différence entre un citoyen lambda et un salarié et une entreprise, les entreprises de transport ont l'obligation, et je dis l'obligation, depuis plus de 10 ans, de répercuter les augmentations de carburant en pied de facture. C'est pour cela qu'on voit plus les transporteurs faire grève, faire des manifestations par rapport aux hausses de carburant qu'on a pu voir successivement au fil des années passées, tout simplement parce que cette répercussion, elle est obligatoire. Alors s'il y a des entreprises qui l'appliquent, puisque c'est obligatoire, mais il y en a d'autres, d'une façon détournée, qui ne le font pas. Mais ça, c'est leur propre chef.
Et alors, est-ce qu'elle l'applique également à la baisse, hein ?
Bien sûr, oui. Au début, bien sûr, c'était ça allait que dans un sens. Donc, il y a des clients qui se sont plaints. Et quand j'ai des clients, hein, des personnes qui recherchaient des transporteurs pour faire leur activité de livraison de marchandises, qui n'avaient pas le choix que de payer les augmentations en pied de facture. Et donc, quand c'était à la baisse, ben, ils ont demandé, bien sûr, qu'il y ait des avoirs de fait. Et les entreprises les appliquent obligatoirement.
Alors, la transition écologique dans tout ça, est-ce que la France, que ce soit du côté citoyen, salarié, entreprise ou élus locaux, est-ce qu'elle met réellement en place des moyens de protéger l'environnement ?
Non, des effets d'annonce. Pour moi, c'est simplement des effets d'annonce. On essaye de trouver par tous les moyens de culpabiliser des gens. Si on se rappelle quelques années en arrière, on roulait tous avec tous et une grande partie en majorité avec des véhicules essence. On nous a tous fait comprendre que le diesel, le carburant diesel était beaucoup moins polluant, beaucoup plus avantageux et qu'il fallait absolument prendre du diesel, que ça devienne rentable au niveau des parcours faits, puisqu'on disait qu'à l'époque il fallait faire plus de 20 000 km par an pour que ce soit un véhicule diesel soit rentable parce que le prix d'achat était beaucoup plus supérieur à celui du même véhicule équipé d'un moteur essence. Les pouvoirs publics ont fait qu'il n'y a eu plus d'écart. On a pratiquement le même prix pour un véhicule essence qu'un véhicule diesel. Tout le monde s'est rabattu sur des véhicules diesel. Et puis 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on nous dit que c'est plus les bons. On revient en arrière en nous expliquant que l'essence est moins polluant que le diesel. Alors qu'on sait d'autres, on sait malheureusement qu'il y a d'autres procédés. Hein. On va nous faire venir tranquillement, nous fait venir vers l'électrique. L'électrique qui, à l'instant T, appauvrit certains pays pour de leur richesse, hein, et quand je dis de leur richesse, c'est ce qu'ils ont sous terre et surtout pas dans leur porte-monnaie, pour récupérer les matériaux précieux pour faire ces batteries, et puis après on les recyclera, on ne sait pas comment, on les mettra dans un petit coin et nos arrière-arrière-petits-enfants, on ne sait pas ce qu'ils en font.
Et vous estimez qu'il y a des pistes qui n'ont pas été explorées sur l'énergie renouvelable, j'imagine ?
Bien sûr, le tout premier, l'hydrogène. Ça fait 50 ans que les moteurs à hydrogène y fonctionnaient. Pourquoi on les a étouffés, hein, exprès, volontairement, hein, pour développer tout ce qui était à base de pétrole. On revoit maintenant une entreprise, je dis franco-espagnole, puisqu'elle doit être basée en Espagne, qui met au point un procédé de fabrication de pétrole façon en interne, enfin récupérant des algues et tout ça. Pourquoi pas essayer de développer? Alors ça coûte peut-être cher, hein, c'est des nouveaux procédés, donc c'est obligatoirement, il y a de l'argent à investir et obligatoirement des coûts, mais une fois que c'est mis en place et que ça fonctionne, je me dis que c'est quand même plus intéressant que de puiser dans le sol pour trouver du pétrole fabriqué de façon naturelle et qui ça me nuise et qui aussi nous fluctue le prix des transports, de ces carburants par rapport à la volonté des pays producteurs.
Donc quelle serait la bonne solution aujourd'hui, d'après vous, des annonces qui auraient été acceptables de la part du gouvernement ?
Je pense que les annonces acceptables, à l'instant T, ça va faire plaisir à certains citoyens. Ceux qui font plus de 30 km, ceux qui se chauffent au fioul, ceux qui vont peut-être pouvoir profiter de tickets modérateurs au niveau des transports en commun, mais ça va malheureusement rendre accessible à ces personnes ceux qui habitent dans des grandes agglomérations, ceux qui habitent dans vraiment en pleine campagne où le seul moyen de locomotion c'est soit la marche à pied, soit le vélo, soit l'automobile. Les transports en commun ne sont pas adéquates et assez développés pour pouvoir les utiliser. Donc le moyen de transport le plus usité au niveau de la France, c'est obligatoirement le véhicule voiture.
Et on terminera là-dessus. Merci Jean-Louis Delaunay, secrétaire fédéral transport CGT, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grolier. Les CRS sont intervenus en fin de matinée pour déloger la centaine d'ambulanciers qui bloquaient le périphérique parisien. Une mobilisation destinée à dénoncer l'entrée en vigueur d'un article de loi qui donne la responsabilité du financement des transports des patients directement aux établissements de santé, une mesure qui vise à éviter la fraude, sauf que les ambulanciers, eux, l'accusent de détruire leur autonomie et leurs conditions de travail, puisque les hôpitaux seraient amenés à réaliser des appels d'offres auprès des différentes entreprises privées de transport sanitaire. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Ciel couvert et souvent pluvieux. Les températures particulièrement douces pour la saison sont comprises cet après-midi entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.